Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment faire du vélo en ville une pratique sportive? Et pas seulement un moyen de transport. Certes, quand il faut slalomer entre les voitures, les nids de poules dans la chaussée, certains disent même qu'il s'agit de nids d'autruche, pactiser avec les motos, inspirer profondément un air un peu pollué. Et pourtant, eh bien, de plus en plus de citadins aiment ce sport pratiqué dans une demi-adversité. À cause des grèves et du coronavirus, la pratique du vélo a augmenté de près de 30% en France, avec des pics dans des villes comme Paris qui enregistrent une hausse de 72% selon l'association Vélo et Territoires. Alors, comment pratiquer le vélo au quotidien sans s'épuiser ni se mettre en danger? Nous allons en parler avec nos invités et surtout pour avoir un maximum de plaisir. Nous sommes en ligne avec Olivier Dulaurent. Bonjour Olivier Dulaurent.
Oui, bonjour.
Vous êtes cyclosportif, présent sur bon nombre de courses amateurs. Vous êtes chroniqueur aussi pour la presse spécialisée. Et vous publiez le guide du vélo écolo aux éditions Le Duc. Également avec nous, Olivier Schneider. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. On appelle ça la FUB. Et puis vous entendrez aussi les voisins et les voisines, le reportage d'Inès Sedel Garcia à Abidjan, avec celui qui se fait appeler l'ambassadeur du vélo en Afrique, avec son ONG My Dream for Africa, Andy Costa, et pédaler à Abidjan, je peux vous dire que c'est pas de tout repos. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous êtes cycliste en ville et que vous vous fixez quelques petits objectifs sportifs, c'est le moment de nous raconter votre pratique, de poser aussi, pourquoi pas, des questions à nos invités experts. Vous nous appelez sur WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Ibrahim est à Odienné, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il nous dit qu'à Odienné, le vélo est très utilisé dans des compétitions sportives après les fêtes, beaucoup moins pour la circulation. Quand j'avais entre 8 et 17 ans, je roulais à vélo souvent comme les autres enfants, mais j'ai arrêté il y a 2 ans, mon vélo est cassé et puis en plus, il y a plus de motos sur la route. Ou encore Nafiou qui est à Sokodé, dans le nord du Togo, qui nous dit on n'a pas de piste cyclable chez nous pour se protéger. Alors je ne me risque pas. Joseph à Cotonou au Bénin. J'ai l'impression que la bicyclette souffre dans certains pays d'Afrique à deux niveaux. Au niveau des décideurs politiques qui n'en font pas la promotion alors que c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Et puis au niveau des populations qui n'en font pas un moyen de locomotion. Le vélo à côté de la moto et de la voiture est perçu comme le moyen des pauvres. Les motos ne laissent pratiquement pas les cyclistes circuler sur les rares bandes cyclables. Conséquence, aller à vélo est plus un risque qu'un loisir. Voilà, appelez-nous en tout cas pour les quelques dingues qui aiment pédaler, quelle que soit la situation. 33 7 64 45 51 41.
So, yeah, ride safe and season again. 3, 2, 1, go!
Ce que vous voyez là, ça s'appelle une allécate. C'est une course d'orientation géante, à vélo, en pleine ville et au milieu de la circulation.
Née à Toronto au début des années 90, elle se déroule en pleine rue et s'affranchit des règles de circulation. À travers le monde, toutes les semaines, des allécates ont lieu. Le principe est simple. Un point de rassemblement en ville, un signal de départ et une liste d'adresses à rejoindre le plus rapidement possible.
C'est pas très autorisé les allécates ? C'est un événement qui tourne sur Facebook et vient qui veut, avec la bécane qui veut d'ailleurs, il y a de tout. C'est une course qui est organisée par des coursiers dont c'est le métier.
Et bah c'est le plus rapide, le plus à l'aise dans la ville qui gagne quoi.
Si tu veux gagner, oui, il faut prendre un peu de risque, c'est certain.
En gros, là il y a une feuille, il y a des adresses et tu dois aller le plus vite possible.
Olivier Schneider, tout de même, avec ses allécates, hein, ces drôles de compétitions sportives en pleine ville, on a l'impression qu'il y a vraiment eu un changement d'image du vélo.
Ah oui, tout à fait. Le vélo, je vous le confirme, ça devient tout simplement un objet normal de la vie quotidienne. quand on venait au bureau à vélo il y a quelques années, on passait un peu pour l'écolo de service ou pour la personne qui a perdu son permis de conduire pour conduite sous drogue ou sous alcoolémie. Là aujourd'hui, c'est devenu tout à fait normal, tout à fait banal de faire du vélo pour ses déplacements, que ce soit pour aller au travail ou pour tout autre motif. Et donc c'est vrai que c'est une inflexion très récente due à la concomitance d'abord de la création d'infrastructures cyclables, ensuite de la grève en lien avec la réforme des retraites, et ensuite la pandémie qui nous a privés d'activité physique pendant quelques semaines et qui nous a vraiment donné envie de nous déplacer à vélo tout en évitant aussi la promiscuité des transports en commun au moment du déconfinement à partir du 11 mai.
Olivier Dulaurent, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui aiment non seulement se déplacer à vélo, mais de faire de ce déplacement un moment de sport, un moment où on se donne à fond, et si possible avec un matériel un peu plus hype, un peu plus dans le vent, un peu plus, on va dire, designé, avec des vélos au look sympa et qui travaillent eux-mêmes leur look de cycliste, non Olivier Dulaurent ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement plus de jeunes, et puis comme le disait Olivier Schneider, l'image du vélo dans son ensemble a complètement changé et ce n'est plus devenu un petit peu une pratique un peu ringarde avec l'image qu'on avait un petit peu du Tour de France des années 50. Voilà, cette image ringarde, maintenant il y a un effet, il y a une vraie mode oui. qui est liée à ça et qui touche également l'habillement, les vélos eux-mêmes. Ça, c'est toute une
industrie. Visuellement, complètement changé parce qu'on avait encore l'image du papy avec son maillot sur son vélo le week-end sur les routes de campagne et puis qui roulait avec son club amateur ou sa bande de copains. Là, c'est un peu différent, c'est très challenge. On a l'impression que les jeunes, parce que c'est quand même une population jeune, se fixent des objectifs de distance, de performance. Est-ce qu'il faut une augmentation des distances parcourues pour en faire un sport quand on roule en ville ?
J'allais dire que non, en ville, c'est dès les tout premiers kilomètres, c'est considéré comme un sport. Après que le sport en lui-même, beaucoup de pratiquants cherchent à s'échapper de l'environnement urbain pour en faire plus à la campagne, c'est effectivement plus agréable. Mais c'est déjà un sport si on le fait sur des distances entre 5 et 10 kilomètres, surtout quand on n'est pas du tout entraîné à ça. Et puis quand on fait 5 ou 10 kilomètres pour aller travailler, il faut en faire autant pour rentrer à la maison.
Olivier Schneider, la distance parcourue moyenne dans les villes en Europe aujourd'hui, quand les gens qui vont travailler à vélo, c'est quoi ?
Alors c'est vrai qu'il y a un véritable allongement des distances ce qu'on appelle les vélotaffeurs, les gens qui se rendent au travail, donc au taf à vélo. On constate un réel allongement de la distance qui reste acceptable. C'est lié à plusieurs facteurs, à la fois à la création d'infrastructures dédiées dans les villes qui font que, en fait, on peut rester concentré un quart d'heure en mixte avec les voitures, etc. Ça ne pose pas de problème, mais si ça doit durer une demi-heure ou 45 minutes ou une heure, là, on préfère être sur des infrastructures dédiées, bien séparées du trafic. Et donc,
ce que vous appelez les infrastructures dédiées, c'est les pistes cyclables, hein,
c'est notamment
en français simple.
Hors agglomération, ça peut être des voies vertes. Donc, évidemment, parce que si on fait une heure, c'est souvent qu'on sort du strict milieu urbain. Et il y a un deuxième phénomène qui participe à l'allongement des distances, c'est le développement du vélo assistance électrique. Parce que en vélo assistance électrique, c'est pas un vélo de flemmard où on s'assoit et qu'ensuite ça avance tout seul comme un scooter électrique. Il faut pédaler pour que la machine avance. Et c'est vrai que ce que nous disent notamment les cardiologues, mais aussi les pneumologues, c'est que finalement c'est meilleur presque pour la santé de faire une heure en vélo assistance électrique. Oui, parce que compte tenu de la pollution de nos villes et du besoin d'avoir plutôt des efforts longs que courts et explosifs, c'est vrai que contrairement à une idée reçue qui serait que le vélo assistance électrique c'est pas de l'activité physique, en fait en réalité il y a de la place pour tout le monde, et donc c'est ça qui participe à un rallongement. Ouais. Aujourd'hui on constate dans les villes qui se sont dotés d'infrastructures et avec la progression des vélos assistance électrique, des gens qui font facilement 7 voire 10 voire même 15 kilomètres aller simple, hein, c'est-à-dire le double en aller-retour, alors qu'il y a quelques années, on était plutôt sur du 3 ou 4 kilomètres.
Olivier Dulaurent, vous êtes d'accord avec ça ? Il vaut mieux faire du vélo électrique avec un trajet plus long qu'un trajet plus court avec un vélo classique ?
Ah bah oui, tout à fait. Non, il a donné toutes les bonnes raisons pour pratiquer du vélo. Effectivement, c'est un sport d'endurance, donc l'endurance, ça se travaille sur la durée. Et faire du vélo pendant une heure, même de façon modérée, est beaucoup plus efficace que de faire un sprint de 1 km.
Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'engouement est au rendez-vous en Europe depuis le confinement. L'application Google Maps a vu ses chiffres concernant les demandes d'itinéraires vélo augmenter de 70%. En tête, la Finlande, la Pologne, le Canada aussi, donc il n'y a pas que l'Europe. Hein. Et pourtant, dans les villes canadiennes, les villes nord-américaines sont très étalées, très, très étendues. Alors ça peut être aussi des demandes hors lieu urbain. On a des applications aussi comme l'application Strava qui a enregistré pour les trajets en vélo entre 2019 et 2020 une énorme augmentation pour Berlin, pour Barcelone, pour des villes comme Liverpool. Il n'y a pas que les capitales qui s'intéressent au vélo aujourd'hui pour rouler, pour se déplacer, mais aussi comme pratique sportive, Olivier Dulaurent.
Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Des applications comme Strava dont vous avez parlé ne peuvent pas mentir. Ce sont des constatations qui sont faites. Et il y a de plus en plus de déplacements, de kilomètres parcourus et ce besoin lié aussi à la conjoncture et à la pandémie, ce besoin de se dépenser tout simplement après avoir été confiné. Et donc là, ça concerne effectivement une grande partie du globe en entier.
Pendant le confinement, 10% des pratiquants de vélo, en tout cas en France, ont acheté un vélo, alors pas le vélo d'appartement, ce qu'on appelle le home trainer, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le home trainer? Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, Olivier Schneider?
Alors le home trainer, c'est un dispositif qui permet de transformer un vélo classique en vélo d'appartement. Donc vous calez votre roue avant dans un support qui l'immobilise et vous avez un dispositif sur la roue arrière qui lui permet de tourner néanmoins en conservant une certaine friction qui va vous permettre de moduler l'effort, et donc ça vous permet de pratiquer du vélo dans votre salon peut-être un quart d'heure avant le début de votre journée en visioconférence pour faire du vélo d'appartement pour vous rendre à votre télétravail. Et donc en effet, énormément de gens, si je puis dire, sous accoutumance, mais au sens positif de faire du vélo tous les jours, se sont équipés pour pouvoir avoir cette activité physique.
Oui, parce que le problème, Olivier Dulaurent, du vélo, et c'est ça qui est dur comme certains sports, c'est que on ne peut jamais s'arrêter de pratiquer, sinon on perd tous ses acquis, tout ce qu'on a gagné en endurance, en performance, vitesse, etc.
C'est même pire que d'autres sports d'autres sports d'endurance comme la course à pied, où la course à pied, les muscles finalement de la course à pied donc sont presque les mêmes que ceux de la marche. Donc rien que le fait de marcher, on entretient quelque part ces muscles. Mais le vélo, dès qu'on s'arrête ne serait-ce que quelques jours, le geste cycliste se dégrade très vite.
Et dès qu'on veut repédaler, on se dit « mon Dieu, ce que c'est dur ».
Exactement, vous avez tout à fait raison. Et puis sans compter, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est ce besoin, et puis Olivier Schneider le rappelait, ce besoin de se dépenser, et la sécrétion d'endorphines, donc ces hormones du plaisir liées au sport d'endurance. On a un réel besoin quand on en fait régulièrement. C'est une drogue dans le bon sens du terme.
Alors aujourd'hui, le vélo se développe dans des villes secondaires en Europe et pas seulement. L'Europe d'ailleurs maintenant propose des véloroutes longue distance à travers l'Europe. Il y a une dizaine de routes qui traversent la France d'ailleurs. Et le but à terme, c'est d'avoir 90 000 km de réseau en Europe.
Tout à fait, oui, tout à fait. C'est ça, c'est sous forme d'étape. Mais là, on bascule vraiment sur le vélo sportif.
Elles ont quelles caractéristiques? Sont des pistes cyclables? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des pistes protégées?
C'est un enchaînement de plusieurs types de routes. Ce sont des routes avec soit faible circulation, donc qui ont été sélectionnées, soit des pistes cyclables, soit parfois des chemins bien viabilisés, donc qui permettent de rouler avec un vélo de route normal. Ce n'est pas une succession de pistes cyclables ininterrompues.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Europe et ailleurs dans le monde des pays qui ont vraiment mené une vraie politique pour qu'il y ait une pratique sportive du vélo en ville et que ça soit au-delà d'un moyen de locomotion, Olivier Schneider ?
Alors c'est vrai que, à ma connaissance, c'est pas l'angle le plus où on aborde le plus le vélo. Le vélo est perçu comme un mode de transport aux Pays-Bas, au Danemark, mais également dans une moindre mesure en Belgique et en Allemagne. Mais le côté activité physique, prévention primaire et pratique sportive, et en effet, il y a de forts progrès encore à faire pour bien prendre en compte le vélo dans ces qualités-là. Mmh.
Ceci dit, Olivier Dulaurent, il y a aussi les usagers qui s'emparent du vélo pour le transformer, pour en faire une pratique sportive, en organisant des jeux, des compétitions en ville. On entendait tout à l'heure au début de l'émission les fameux Aller 4, hein, donc ces courses importées d'Amérique du Nord par les coursiers.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que parfois sur ce genre de choses, l'Amérique du Nord donne un petit peu le ton, et puis c'est on parlait tout à l'heure de mode, et c'est un petit peu une mode qui peut venir en Europe. Et c'est vrai que les compétitions sont multiples, et elles existent sous énormément de formes différentes, que ce soit sur route ou en VTT, ou des courses d'orientation qui utilisent aussi le vélo. Il existe une infinité de pratiquer la compétition et de faire du vélo en face d'un chronomètre, mais c'est vrai que les possibilités sont assez multiples.
Allez les voisins, si vous n'avez pas encore de vélo, je vous offre un petit moment de rêverie créole, un tour du monde en vélo d'appartement par Bonbon Vaudou, et d'ici là surtout vous nous appelez sur WhatsApp, on a envie de vous entendre si vous pratiquez le vélo envers et contre tout. 33 7 64 45 51 41.
Checklist au Québécane, paré, j'enclenche tac ma dynamo, les cliquetis du pédalier me battent un rassurant tempo, et ça donne on m'a dit, si tu réfléchis, tout tombe à l'eau. Mais cette idée fait son chemin, que font tous ces cadres à vélo. Et mes collègues qui m'encouragent et me relaient, la crampe qui grimpe dans mon mollet, les grands espaces entre l'ascenseur et l'écran, le tour du monde en vélo d'appartement. En vélo d'appartement. Ouh, ôter haut de cœur l'héroïque, ou de coups de pédale sans balamo. Papa Zordi Polo Mexique, que demain il sera l'Eldorado. Et mes enfants qui m'encouragent et me relaient, la crampe qui grimpe dans mon mollet. Les grands espaces entre placards et brosses à dents, le tour du monde en vélo d'appartement. Le tour du monde en vélo d'appartement. Le tour du monde en vélo d'appartement. Mais c'est bien ça, et malgré la vitesse, je ne suis pas fou, je l'ai vu le manguier au cœur de l'open space. L'Everest à flanc de frigo, le Niagara dans la fontaine à eau, dans le micro-ondes d'un volcan, le tour du monde en vélo d'appartement.
Le tour du monde,
le tour du monde en vélo d'appartement.
Bonbon Vaudou, le tour du monde en vélo d'appartement. Attention, le vélo d'appartement, c'est un faux vélo, mais qui vous permet de pédaler pour faire un petit peu d'entraînement cardio, à ne pas confondre avec le home trainer, on en parlait tout à l'heure, qui est votre vrai vélo que vous avez calé dans un système et qui vous permet à l'intérieur de votre domicile ou d'une pièce de continuer à vous entraîner sans être dehors, sans pédaler sur la route. Alors, comment faire du vélo en ville une pratique sportive et pas seulement un moyen de transport et prendre soin surtout un maximum de plaisir, en toute sécurité si c'est possible. On en discute avec vous, Olivier Dulaurent. Vous êtes cyclosportif, chroniqueur pour la presse spécialisée. Et surtout, vous publiez un guide très utile, le guide du vélo écolo, dans lequel vous donnez beaucoup de conseils. Et Olivier Schneider, vous êtes président de la Fédération française des usagers de la bicyclette.
Ce que j'ai avec le vélo, et pourquoi je suis complètement addict à ça, c'est que j'ai plus des jambes, j'ai des roues, quoi. Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre. Ça y est, je crois qu'on va être au complet.
Bon, on va y aller alors. C'est parti. Alors les Girls on Wheels, c'est un groupe de filles qui se réunissent tous les mercredis soirs pour faire des sorties urbaines dans Paris. Entre filles, en fait on est toutes en vélo de course en général. On décide d'aller quand même à des allures assez vite quand même.
Ouais.
Si on est en Vélib, c'est un peu plus compliqué de suivre. Il y a différents niveaux en fonction des semaines. Il y a les vertes qui sont plus tranquilles, les oranges comme ce soir qui sont un peu plus fortes, mais ça va. Et les rouges où il va y avoir plus de dénivelé, ça va aller plus vite, plus long aussi. Mon rôle de mapeuse, là ce soir, c'est vraiment de guider le groupe et d'indiquer aussi de protéger du danger. Enfin, s'il y a des voitures, si au niveau des feux, si on peut passer ou pas, en calculant par rapport au nombre de personnes qu'il y aura derrière moi. C'est vrai que le fait d'être cycliste féminin, le cyclisme c'est quand même un sport à la base d'hommes, comme la majorité des sports d'ailleurs, je crois. En fait, on a souvent oui droit à des moqueries quand même. Vous n'êtes pas prête pour le Tour de France, comme si on n'était pas vraiment à notre place aussi, quoi.
C'est un outil incroyable, de toute façon, pour l'émancipation de la femme. Et nous, on va le vivre vraiment jusqu'au bout, je pense, parce qu'on part vraiment faire des longues distances.
Attends, hop.
Un extrait de Biclou, c'est une série sur le vélo. Un Biclou, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire bicyclette en argot. C'est quand même un peu du vieil argot. Et c'est aussi le titre d'une grande série en vidéo lancée par le journal Le Parisien en partenariat avec Facebook Watch. Toutes les semaines, eh bien, on peut retrouver un numéro de Biclou sur la page Facebook du Parisien. Et au total, c'est une opération d'un an, 48 épisodes, format magazine et puis toute une équipe dédiée pour parler, bah, pour parler du vélo et du vélo. Ça devient quand même une idée fixe, hein, chez beaucoup de pratiquants, Olivier Dulaurent.
Oui, tout à fait. Un petit peu comme on entendait dans le reportage, il y a cet engouement dont on a déjà parlé, et puis cette idée fixe liée aussi à ce besoin d'en faire une fois qu'on a... En fait, souvent, quand on est pratiquant régulier, quand on pose son vélo, on a fini sa sortie, on n'a qu'une hâte, c'est d'en recommencer une sur les jours qui suivent.
Ouais. Et pourquoi ne pas faire du sport tout en se déplaçant pour aller travailler, hein ? Comme ça, c'est vrai qu'on gagne du temps, plutôt que d'aller dans une salle de sport ou sur un terrain de football, on n'a pas toujours la possibilité, notamment dans les villes. Hein. Finalement, la pratique du sport, c'est pas si simple que ça. Et vous nous appelez, vous les voisins, si vous aimez le vélo, vous aimez vous défoncer à vélo, 33 7 64 45 51 41. On est en direct, on est chez 7 milliards de voisins. Sur RFI, on donne la parole à un voisin, Neuville, qui nous appelle de Matadi, en République démocratique du Congo. Bonjour Neuville.
Bonjour Emmanuel.
Neuville, vous êtes à Matadi, c'est à 300 km de Kinshasa, et vous vous déplacez à vélo dans cette ville ?
Oui, oui, ok. Souvent, quand on m'envoie pour aller acheter le pain à la boulangerie, je fais aussi du sport, je me déplace avec.
Vous roulez combien en moyenne, vous savez ?
Moi, je sors souvent le soir, parce que vous voyez ici, c'est vraiment ensoleillé, il fait tellement chaud. Je sors seulement le soir, parce qu'il fait doux, calme, je me déplace. Le matin, je sors pour aller acheter le pain, je retourne.
Mais Matadi, c'est quand même une ville qui est un peu étirée à flanc de colline, hein. Ça monte et ça descend, non ?
Oui, oui. Ici, vraiment, il y a trop de montagnes. Et comme je l'avais dit, vous voyez, ici, il y a un problème aussi d'infrastructure. Quand tu peux descendre en ville, c'est une bonne chose, tu descends calmement. Mais à ton retour, tu auras des problèmes parce que la route est tellement inondée, il y a des grandes... voitures qui sont là, il y a des motocyclettes, il y a des taxis. Donc si toi tu peux descendre avec les vélos, c'est bien en descendant, mais à ton retour tu dois maintenant marcher à pied.
Ah
tu
oui.
dois le faire à pied.
Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Comment vous êtes perçu, Neuville ?
J'aime beaucoup ces histoires ici de vélos parce que c'est depuis mon jeune enfance, même au village, nous on voyageait avec les vélos, on amenait les denrées au vélo, même aussi ici. On peut m'envoyer vraiment plus loin, je pars avec les vélos. Je me promène avec, à l'école aussi, oui. Je peux faire un tour avec.
Mais autour de vous, les gens sont surpris que vous soyez à vélo ?
Non. Dans les quartiers, il y a les enfants aussi qui roulent à vélo. Il y a aussi même un terrain qui est quelque part de chez nous ici, où on loue les vélos. Un tour, c'est à... Vous faites 100 mètres, vous payez 50 francs congolais.
Ah oui.
Mais moi aussi, j'y allais pour aller rouler les vélos.
Oui, enfin bon, ça chiffre vite alors, hein, pour louer un vélo, ça peut revenir cher. Merci beaucoup Neville de nous avoir appelés. On est également en ligne avec un voisin qui nous appelle de Lubumbashi dans le sud de la République démocratique du Congo, Wesley Gongo. Bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous faites du vélo le week-end ?
Dimanche et samedi soir, je fais les vélos le week-end. Donc.
Alors vous roulez combien de kilomètres ?
En termes de kilomètres, si je peux m'estimer, donc, ça pourrait être même 3 kilomètres.
Il y a des pistes réservées pour les cyclistes à Lubumbashi ?
Ah oui, absolument. Il y a des pistes réservées pour les cyclistes à Lubumbashi chaque dimanche et samedi. En fait, pendant la semaine, on n'a pas assez des espaces pour rouler les vélos en toute sécurité parce qu'il y a aussi une circulation intense des véhicules.
Ouais.
Fait, donc on les fait le week-end, donc samedi et dimanche soir.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le vélo, Wesley Gongo, dans ces conditions-là, sachant qu'il faut toujours faire bien attention et qu'il y a quand même le problème de la sécurité qui se pose pour vous dans une ville comme ça où ce n'est pas vraiment pensé pour le vélo?
Bon, vous voyez, par exemple, moi je suis un sportif de naissance. Hein. Donc quand je roule en vélo comme ça, donc j'ai tendance de vouloir bien travailler mes cuisses, rendre mes jambes très dures.
Ah ouais, donc vous vous fixez vraiment des objectifs. Est-ce que vous avez une question à poser à nos invités, à Olivier Dulaurent, qui est cyclosportif, sur la façon de vous entraîner ?
Quand je suis sur mon vélo, j'ai tendance de croire que c'est comme si je travaillais uniquement mes cuisses. Quels sont les bienfaits du vélo sur le corps et sur l'esprit ?
Olivier Dulaurent, c'est vrai que quand on pédale, on a l'impression que ce sont surtout les cuisses qui travaillent, alors qu'on le voit bien chez les cyclistes professionnels, ils ont des mollets quand même très dessinés, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est principalement les cuisses qui font avancer le vélo. Après, le travail des mollets se fait davantage quand on utilise des pédales automatiques, donc avec le pied qui est accroché à la pédale, hein, donc c'est fixé avec des cales. Les cuisses permettent de pousser et les mollets permettent de tirer. Donc ça, je dis ça vraiment grossièrement. Également aussi, quand on se met en danseuse, on fait travailler aussi le haut du corps. Mais il faut un petit peu passer par une période un peu difficile pour préparer ses muscles à travailler en danseuse ainsi que le haut du corps.
Mmh. Wesley Gongo, est-ce que vous faites travailler le haut du corps en pédalant debout sur le vélo ?
Ah oui, des fois.
Quand ça monte, quand même, ça donne un petit coup de pouce. Hein.
Ah oui.
Olivier Dulaurent.
C'est quelque chose qu'il faut continuer à faire. Et puis donc c'est vrai que c'est plutôt la danseuse, c'est plutôt quelque chose qu'on favorise quand la route s'élève, donc dans des montées. Sur le plat, c'est un peu plus technique. Ça demande un petit peu plus de technicité dans le geste et la coordination entre le haut du corps et les jambes. Mais ça peut quand même se faire à condition de s'exercer à ça. Mmh. C'est vraiment en faisant régulièrement qu'on s'améliore.
Dans l'entraînement, Olivier Dulaurent, vous préconisez dans votre livre Le guide du vélo. D'ailleurs, ça se fait aussi en course et dans d'autres sports, d'alterner des moments où on va très vite, des moments où on se relâche, de faire... Il y a un rythme, hein, que vous préconisez, non ? C'est le 30 secondes, 30 secondes ?
Ça s'appelle du fractionné, ce que vous dites, ou interval training en anglais. Donc c'est vraiment donc de faire, comme vous dites, le 30-30. C'est quelque chose qui fait progresser énormément quand on cherche là, on est plus dans le volet performance.
Oui.
Donc ça consiste à répéter plusieurs fois des phases donc où on pédale fort, pas au sprint, mais on pédale très fort pendant 30 secondes, suivi de récupération pendant 30 secondes. On répète ça 5, 6, 7 ou 10 fois. Et puis, on peut ajouter une deuxième série de 5, 6, 7 ou 10 fois, voire une troisième série pour cumuler un temps d'effort à intensité élevée qui est plus important que si on travaillait en continu. Si on travaillait en continu, on ne serait pas capable de faire plus que 2 ou 3 minutes, par exemple, à cette intensité-là. Et là, en cumulant ce temps d'effort, on peut arriver à 10 minutes ou 15 minutes, ce qui est d'ailleurs préconisé.
En même temps, Olivier Dulaurent, je trouve qu'en ville, on est quand même tout le temps... C'est difficile d'avoir un rythme continu, fluide. On est tout le temps freiné à cause de la circulation, des piétons. Donc, on s'arrête, on repart. C'est compliqué d'associer ça à un rythme cardio-training, si on peut dire.
Oui, tout à fait. C'est vrai que l'exemple que je donnais sur ces séries à faire plusieurs fois, ça se fait, là il faut être vraiment à la campagne. Et vous avez raison, quand on est en ville, finalement on fait un petit peu du fractionné de façon naturelle, si on peut dire, entre les feux, les freinages, les ronds-points. Et là on peut, si on veut s'améliorer, si on veut améliorer sa technique, on peut justement utiliser un petit peu le mobilier urbain, plutôt que de, une fois qu'on a arrêté un feu rouge, plutôt que d'accélérer de façon gentille, tranquille. On peut accélérer de façon forte, sachant qu'un petit peu plus loin, on va être arrêté par les éléments du code de la route. Et finalement, on fait du fractionné comme ça.
Donc, par exemple, redémarrer en danseuse après le passage au feu vert, plutôt que de se servir de son changement de vitesse et que ça soit moins difficile.
Exactement.
Wesley Gongo, vous avez entendu tous ces conseils ?
Absolument, absolument. Merci beaucoup pour les conseils, vraiment.
Merci, très très bonne journée alors hein, à bicyclette à Lubumbashi. Bon courage et bravo aussi pour vos performances. Olivier Schneider, il y a de plus en plus de jeunes, on l'a dit, qui ont envie de pédaler avec quelque part des objectifs sportifs hein, et pas seulement pour se déplacer. À partir de quand on peut décréter qu'on a vraiment une pratique sportive du vélo en ville, en termes de temps passé sur son vélo, Olivier Schneider par exemple ?
En fait, aujourd'hui, les jeunes souffrent d'une telle sous-activité physique. L'Organisation mondiale de la santé recommande une demi-heure d'activité physique par jour minimum, mais pour les enfants jusqu'à 18 ans, 60 minutes d'activité physique par jour. Et aujourd'hui, sur les hors confinement, on considère que, et c'est particulièrement d'ailleurs accentué chez les jeunes filles plutôt que chez les garçons, ils ont plutôt 10-15 minutes d'activité physique par jour, ce qui peut avoir des voire beaucoup de gens, enfin beaucoup d'enfants, zéro. Et donc, en effet, le fait d'avoir déjà au moins un quart d'heure aller, un quart d'heure retour pour aller au collège ou pour les grands au CM2, c'est déjà ça sauve déjà les meubles, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui ce manque d'activité physique est vraiment quelque chose de, c'est une bombe à retardement d'un point de vue sanitaire.
J'ai lu qu'il faut au moins 2h30 de vélo par semaine pour commencer à avoir des bénéfices positifs du vélo sur soi-même, sur son corps, sur son mental.
C'est cohérent avec les chiffres que je viens de citer, mais c'est beaucoup mieux de faire tous les jours une demi-heure que de faire juste le dimanche une balade de 3 heures de suite, ce qui n'empêche pas, si on fait toujours une demi-heure, on peut quand même, ayant plus de temps le dimanche, faire une longue sortie. Mais il faut vraiment prendre l'habitude et il faut surtout aussi, il faut que la pratique sportive, elle soit progressive et adaptée. Justement, notamment connaître les techniques comme le fractionné dont on a parlé il y a un instant, c'est important. Il faut surtout pas tout de suite se mettre des barres trop hautes. Et faut y aller progressivement et de manière adaptée, donc adaptée à la fois sur le relief, sur la distance, et y aller progressivement. Et les auditeurs le verront, en faisant régulièrement, on fait des progrès phénoménales, surtout au début d'ailleurs. Plus on a fait de progrès, plus le progrès suivant est plus difficile à atteindre. Et c'est vrai que les premiers, au fait, normalement, en 3 mois, toute personne qui se remet au vélo arrête d'être, par exemple, en sueur si elle fait un effort modéré pour aller au... C'est les 3 mois qu'il faut à notre corps pour s'adapter au fait de faire du vélo tous les jours. Et au bout de 3 mois, vous verrez, vous pourrez arriver au travail sans être en sueur, sans avoir forcément besoin de prendre une douche, etc. Donc vraiment, cet effort progressif, c'est très important.
C'est l'entraînement qui permet de moins transpirer à la fin. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Dulaurent ?
Comme l'a dit Olivier Schneider, c'est... on progresse à un point qu'on ne soupçonnait pas quand on était sédentaire. Ce qui est très important, c'est la régularité. Comme on disait, il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours qu'une fois par semaine longtemps. Mais voilà, c'est déjà évoqué. On progresse de façon très très vite, parce qu'à l'inverse, où le geste cycliste se dégrade très vite, au contraire, vu qu'il n'est pas utilisé dans la vie quotidienne, on progresse très très vite en pratiquant.
Alors les bénéfices, évidemment, hein, c'est la diminution du stress, bon, la perte de poids pour ceux que ça intéresse, le développement aussi, le renforcement du système cardiovasculaire qui améliore les capacités respiratoires, le souffle. D'ailleurs, j'en profite pour passer un grand bravo à Romain Dubras, qui est le réalisateur technicien de cette émission et qui effectue tous les jours son trajet à vélo pour venir travailler. 32 km aller-retour, donc multiplié par 5, ça fait... 160 km, il me semble, par semaine. C'est pas mal, non, Olivier Duloran ? On peut parler d'une vraie pratique sportive, je crois, là.
Ah bah oui, tout à fait. 160 km par semaine.
Par semaine.
Oui, tout à fait. C'est déjà une très bonne pratique sportive. Et là, comme on le disait, c'est une pratique qui est quotidienne et même bicotidienne dans ce cas-là. Donc là, j'imagine que Romain a une bonne condition physique. Il peut ça, après le week-end, s'aventurer sur des distances bien plus longues.
il se porte bien. Alors, on va pas parler des galères, quand même. Les pneus crevés, les problèmes de dérailleur, la liste des, pardonnez-moi le vocabulaire, mais la liste des emmerdes à vélo. On peut en dire un mot, Olivier Schneider ?
La première, pour vous citer emmerde à vélo, c'est quand même le vol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant qu'il y a un peu d'aménagement cyclable, donc piste cyclable ou bande cyclable dans les villes, la principale crainte de nombreux cyclistes, c'est de ne pas retrouver le vélo le soir quand on veut repartir à la maison. Donc le premier conseil, c'est d'acheter un bon antivol. La FUB teste chaque année des antivols et publie sur le site bicycode.org un espèce de classement pour vous conseiller. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément les antivols les plus chers qui sont les meilleurs. Donc, première chose, c'est d'utiliser un bon antivol. Deuxièmement, c'est de toujours attacher son vélo, même quand on va juste acheter sa baguette, ne pas se dire « j'en ai pour 3 minutes » et c'est là que les vols peuvent survenir. Toujours attacher le cadre à un point fixe, et idéalement, le cadre à un point fixe et la roue avant au cadre, parce que la roue avant est facile à enlever. Donc, les premiers types d'emmerdes, c'est les vols de vélo, et malheureusement, il y en a 400 000 par an, et c'est vrai que au bout du deuxième vol par an, en France bien sûr, et c'est, dans le monde c'est des millions, et donc ça décourage la poursuite de la pratique du vélo. On a fait des études, le premier vol on a très mal au cœur mais on continue, mais le deuxième vol souvent on arrête, donc il faut vraiment bien attacher son vélo, et ensuite en effet il y a les crevaisons, il y a l'entretien. Aujourd'hui en France, pendant encore jusqu'à la fin de l'année, on a le coup de pouce vélo réparation qui vous permet de bénéficier d'une remise de 50€ sur la réparation du vélo, et on espère que ça va donner l'habitude aux cyclistes de faire, soit d'apprendre à entretenir eux-mêmes, soit de faire entretenir par des professionnels. Finalement c'est pas si compliqué que ça, changer sa chambre à air, maintenir la bonne pression, entretenir sa chaîne, et surtout c'est pas tant de freins, parce que le freinage, c'est vraiment ça qui est le plus important.
Il vaut mieux quand même être un peu bricoleur quand on fait du vélo et pas seulement compter sur les réparateurs, surtout en ville, parce que les réparateurs sont vite débordés. Olivier Duloran, je voudrais vraiment qu'on dise maintenant un mot sur les conseils de sécurité. Comment pédaler le plus possible en sécurité ? Il faut miser sur les équipements, sur la vigilance. En quelques mots, Olivier Duloran.
Ah oui, vous avez déjà donné des pistes. La vigilance, c'est évidemment d'être concentré. Souvent, il faut évidemment être à ce qu'on fait. C'est pas en regardant trop les oiseaux, les arbres, qu'on va réussir à éviter les accidents. Donc ça, c'est vraiment d'être concentré, c'est pas un déplacement anodin comme le fait de marcher à pied. Ensuite, bien sûr, c'est le respect du code de la route qui est vraiment vital. Éviter de rouler sur les trottoirs, comme on en voit beaucoup trop en ville. Ce sont déjà ces premiers aspects-là qui sont les plus importants. Et puis après, Olivier Schneider en parlait, il parlait du vélo en lui-même, c'est d'avoir un vélo qui en bon état, et notamment au niveau du freinage, pour pouvoir s'arrêter rapidement et en toute sécurité.
Merci. Alors je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'un passionné de vélo. Il est à Abidjan. Andy Costa a fondé l'ONG My Dream for Africa, voilà, près de 10 ans. Et il est devenu finalement, envers et contre toute l'urbanisation, eh bien l'ambassadeur du vélo en Afrique. Partout où il va, on le reconnaît de loin à son casque de vélo vert qu'il porte sur la tête en toutes circonstances. Et notre reporter Inès Edel Garcia l'a rencontré à l'occasion des rencontres d'Abidjan sur les villes durables.
Quand j'ai démissionné de la société où j'ai bossé avant, il y a 9 ans aujourd'hui, je me suis lancé en tant que photojournaliste et je me suis dit, je veux avoir un impact positif. Donc je deviens le premier journaliste africain à faire ses reportages à vélo. Donc j'ai créé mon premier concept qui s'appelle Éco-Reporter et j'ai commencé à faire mes reportages à vélo. Et c'est après que je me suis dit, il va falloir déployer cette initiative de façon communautaire pour dire que je ne dois pas être le seul à avoir un engagement écologique. Nous devons tous être éco-responsables.
Mais alors pourquoi le vélo ? Pourquoi ce déclic ?
Je suis né à Trècheville, au quartier Apollo. Au quartier Apollo, on avait un seul vélo pour tout le quartier et chacun attendait son tour. Donc le vélo nous a toujours bercés. Le déclic est parti du fait que le vélo est un véritable symbole de cohésion sociale. Si on a un vélo tout de suite là, tout le monde aura sa chance de faire un tour à vélo. sans protocole. On ne te dira pas est-ce que tu as le permis de conduire, il n'y a pas de carburant, est-ce que tu sais conduire. C'est la véritable liberté. Et le vélo aussi symbolise trois aspects: environnement, mobilité et santé. Surtout que l'Afrique souffre de beaucoup de maladies liées au cœur. Or, le vélo est une réponse à cette problématique.
Et alors, quelles sont les actions que My Dream for Africa déploie ?
Nous avons décidé de démocratiser l'usage du vélo en Afrique. Et le premier focus, c'est de doter les universités en Afrique de vélos en libre service. Parce que selon moi, les étudiants sont les futurs leaders du climat. S'ils ont une bonne culture environnementale via leur mobilité, c'est sûr que quand ils seront dans la vie active, ils pourront démocratiser l'usage du vélo. L'objectif, c'est de doter l'université Félix Oumoyé de 500 vélos, qui est sur une superficie de 200 hectares, et nous avons 50 000 étudiants. C'est un projet pilote. Et le deuxième focus, c'est de faire du plaidoyer politique avec le vélo. Parce que dans notre stratégie, on utilise le vélo pour demander aux décideurs d'essayer d'associer un plan vélo dans leur projet de développement. Et aujourd'hui, grâce à cette initiative, nous avons mis le premier ministre de la Côte d'Ivoire à vélo. Et deux mois après, il y a une loi qui a été signée pour la création de pistes cyclables.
Il y a déjà des pistes cyclables ou pas encore?
Déjà, si. Déjà, on a une piste cyclable sur le projet La Promenade de Grand Bassam. Une piste cyclable de 8 km. Donc, c'est déjà un bon départ. Et le troisième axe, c'est la mobilité liée à la jeune fille. Parce qu'on a fait un constat, l'un des facteurs liés à la déscolarisation de la jeune fille est lié à sa mobilité. L'école est souvent éloignée du lieu d'habitation. Donc on s'est dit qu'il va falloir avoir un focus sur la mobilité de la jeune fille, d'où notre initiative qu'on lance cette année en 2020, Woman Mobility. Nous avons conçu autour de cette initiative un projet dénommé Tous au transport vert, qui consiste à faire des interviews de personnalités influentes qui sont dans la politique, dans le sport ou dans la culture, via le vélo. Et aujourd'hui, grâce à cette initiative, notre projet avoisine les 100 000 vues sur le digital. Et toutes ces personnalités ont un gain immédiat dans la mesure où ça contribue à leur capital sympathie. Donc on leur demande en contrepartie de sponsoriser au moins l'achat de 10 vélos que nous allons redonner en zone rurale pour la mobilité de la jeune fille.
J'imagine que faire du vélo à Abidjan, c'est pas tous les jours facile. Vous, comment vous vivez cette expérience-là?
Je pense qu'aujourd'hui, faire du vélo à Abidjan, il faut être un fou. Et j'accepte le statut de fou parce que tous ceux qui ont changé le monde étaient des fous. Donc je suis le fou de l'écologie. Et il va falloir que quelqu'un s'engage pour que le monde change. Et je pense que la notion du vélo est culturelle en Afrique. Et le véritable problème, c'est un problème sécuritaire et puis un problème d'ordre financier. Je prends un exemple, en Côte d'Ivoire, le vélo paye, si j'ai bonne mémoire, 44% de taxes douanières, comme la voiture. Donc ça ne facilite pas l'usage du vélo, parce qu'avoir un vélo, c'est encore cher.
Il faudrait détaxer le vélo.
Voilà, il faudrait détaxer le vélo, c'est l'une de nos campagnes, parce que d'ici 2050, nous serons 2 milliards en Afrique. L'Afrique est le continent le plus jeune, et nous ne pouvons que faire confiance à notre capital humain, parce que c'est aujourd'hui que nous devons penser à la transition écologique.
Et sachez qu'Andy Costa recherche actuellement des financements pour son projet de vélo en libre service à l'université. Voilà, des taxes de 44% sur les vélos, Olivier Schneider. Vous connaissez Andy Costa, je crois, hein ?
Ah oui, tout à fait. On s'est croisé pour la première fois à la COP24 à Katowice en Pologne. Et depuis, on maintient des contacts. Et je trouve extraordinaire son engouement et la façon dont il agit avec... On le croise toujours, y compris en conférence internationale, avec son casque vert sur la tête. Et c'est vrai que, du coup, il sait attirer l'attention sur le sujet. Il a tout à fait raison.
C'est un vrai problème, hein, les taxes, notamment sur des produits qui sont complètement importés. Mais chez nous aussi, en France, hein, le vélo n'est pas détaxé.
Alors le vélo n'est pas détaxé, il y a eu dans le projet de loi de finances 2021, il y a eu une proposition pour mettre la TVA réduite sur au moins la réparation de vélo. C'est passé en commission mais ça a été ensuite supprimé en plénière. Mais en effet, vu tous les avantages du vélo, c'est assez incompréhensible.
Sur l'environnement, sur la santé, effectivement, du coup il faut absolument, et c'est ce que vous demandez vous en tant que fédération, hein, c'est qu'il y ait des avantages à faire du vélo.
Ben, il faut qu'il y ait les avantages fiscaux, au moins égaux aux autres formes qu'on souhaite promouvoir. Il y a des bonus énormes sur les achats des voitures électriques, alors que ce n'est que accessible pour l'instant aux personnes riches. Le vélo a l'avantage d'être bon marché, donc il faut faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier, parce que paradoxalement aujourd'hui, alors que le vélo pourrait avoir une image du véhicule du pauvre, parce que finalement pédaler c'est bon marché, en réalité ce sont plutôt les CSP+, quoi, les catégories socio-professionnelles les plus privilégiées qui ont accès au vélo, parce qu'elles peuvent le stationner, parce qu'elles peuvent l'entretenir, et donc il faut absolument rendre accessible, c'est la seule façon d'offrir une solution de mobilité durable rapidement au monde entier, accessible de 7 à 97 ans, mais encore faut-il lever les derniers freins, et notamment ceux fiscaux sont quand même, vu les retombées énormes en termes de santé et d'environnement, le calcul est vite fait, il faut détaxer les vélos.
Et de retrouver aussi du plaisir à faire du vélo un sport, y compris en ville. Merci à vous Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, et merci à vous Olivier Dulaurand pour tous les conseils que vous avez donnés. Vous publiez le guide du vélo écolo pour tous les conseils sportifs que vous avez donnés. C'est paru aux éditions Le Duc. Très bonne journée à tous les deux.
Merci.
Tout de suite, une jolie chanson à écouter en pédalant, enfin dans les pays où c'est autorisé d'écouter de la musique en pédalant. Tôt le matin, Gaël Faye.
Respire les effluves, les parfums d'Orient. Sous les tuves, les fumées d'encens. Brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes. Leur senteur navrante laisse loin la rumeur des villes. Si ta vie est tracée des vies, prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux, enfile des semelles de vent, deviens voleur de feu, défie Dieu comme un fou, refais surface, loin des fous, la fine force et faiblesse, fais de ta vie un poème. Sois ouragan entre rebelles, ougan, empereur de brigands, maquin d'albois, caïman, écris des récits. Je suis encore vierge pour accueillir tes hérésies. Lis entre les vies, écris la vie entre les lignes. Fuis l'ennui des villes livides si ton cœur lui aussi s'abîme. Je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là. Attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà. Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras. Traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats. M'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat. Affûter ma lame, me replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat. Rêve d'un pays de cocagne où l'on m'attendrait là-bas. Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux. Des regards transparents qui me noient à petit feu. La zone est de mépris, la vague est d'indifférence. La foule est un zombie et je vogue à contresens.
Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes. Se laisser émouvoir tout le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut. Reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu. Briser les chaînes, fissurer la dalle. Inventer la lune, que tout cela voit. Devenir vent de nuit, pousser la voile. Et s'enfuir vers des rives là-bas.
7 milliards de voisins, c'est fini.